Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting. Ce podcast est rendu possible grâce au soutien financier du groupe Boca. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté, le fondateur et le directeur de la publication de Podcasting.
Bonjour, je suis Agathe Hernier, journaliste pour Podcasting.
Vous écoutez l'épisode bonus de notre série de podcasts « Ces parents que l'on ne saurait voir ». Avant de commencer, je vous encourage vivement à écouter les 4 épisodes de « Ces parents que l'on ne saurait voir » pour mieux comprendre cet entretien bonus. Agathe, au fil de ces 4 épisodes, vous avez laissé la parole à des parents en situation de handicap. Avec vous, nous avons pu mesurer à quel point nombre de démarches, de situations de la vie courante peuvent être complexes, à quel point aussi la société n'a pas encore su s'adapter aux besoins parfois les plus basiques de ces familles. Alors Agathe, pour commencer, vous parlez donc de handiparentalité, un sujet qui englobe une multitude de situations différentes. Comment vous y êtes-vous prise pour traiter ce sujet, sans trop généraliser, sans essentialiser ces personnes, sans les réduire à leur handicap donc ?
Oui, ça a été un gros questionnement en tout cas dans la réalisation de ce podcast. Je me suis demandé au départ comment parler de toutes ces situations en une seule série de 4 épisodes de 20 minutes. J'aurais pu me concentrer par exemple sur un certain type de handicap, imaginons le handicap moteur, pour que ce soit moins large, mais j'avais pas envie de restreindre le sujet parce qu'il me semblait justement important de montrer la diversité des vies, des problématiques, des conséquences de chaque handicap sur le quotidien des personnes. Et de montrer donc qu'il y avait plein de situations totalement différentes. Et j'ai rencontré Drina Candilis, donc psychologue et une des fondatrices du SAPPH Paris, qui m'a dit « Quand on parle de handicap, c'est pas une identité, c'est une situation. » Et ça m'a marqué parce qu'elle me racontait que voilà, même pour deux personnes en fauteuil roulant, les problématiques sont parfois différentes, ou en tout cas les solutions, elles le sont. Pareil, un aveugle de naissance ou quelqu'un qui a perdu la vue, c'est pas la même situation. Donc chaque situation, même un handicap identique, est unique, et c'est vraiment ce que je voulais montrer dans ce podcast. Et de façon pratique, je me suis juste laissée porter par les rencontres, en cherchant évidemment à diversifier les handicaps, les situations, les parcours de vie, mais sans chercher, sans viser l'exhaustivité, qui n'est pas possible à atteindre, je pense, de toute façon. Et j'espère avoir réussi à suffisamment insister sur la diversité des situations pour justement ne pas généraliser et ne pas essentialiser ses parents.
Et Agathe, vous venez d'évoquer un acronyme que l'on retrouve régulièrement dans votre podcast, qui est le service d'accompagnement à la parentalité des personnes en situation de handicap, le SAPPH, donc, que vous venez d'évoquer. Alors justement, du fait qu'il existe des situations totalement différentes, est-ce qu'envisager une parentalité est toujours possible lorsqu'on est en situation de handicap et qu'on souhaite avoir des enfants ?
La réponse n'est évidemment pas simple, que ce soit des parents en situation de handicap ou non d'ailleurs. Mais je l'ai quand même posée à Drina Candilis parce que c'est vraiment une question que je me suis posée au tout début de ce podcast. Et elle m'a répondu elle non plus que non, ce n'est pas simple et que ce n'était pas sûr que la parentalité soit envisageable pour tout le monde, dans tous les cas en tout cas. Et elle m'a raconté l'histoire d'une bénéficiaire du SAPPH Paris, une personne aveugle, qui avait un compagnon aveugle. Ils ont eu un premier enfant. Le père a développé un cancer par la suite, mais la mère voulait quand même un deuxième enfant avec une assistance médicale à la procréation, donc une PMA. Donc elle s'est tournée vers l'hôpital, il y a eu un comité d'éthique qui a été réuni et qui a consulté le SAPPH. Et finalement, le SAPPH a décidé de trancher contre cette PMA. Drina Candilis me racontait que c'était vraiment une décision difficile à prendre, que c'était difficile de se prononcer contre, mais que voilà, parfois certaines situations sont trop compliquées, qu'un bébé nécessite une attention particulière en continu, que certains parents ne peuvent parfois pas la donner, même s'ils sont en état de donner de l'affection, ce qui n'est pas du même ordre. Et il faut évidemment garantir avant tout la sécurité de l'enfant et s'assurer des responsabilités des parents, encore une fois, qu'ils soient valides ou pas.
Alors, Agathe, dans le troisième épisode, vous mentionnez le fait qu'en France, le modèle médical du handicap est privilégié par rapport à un modèle social depuis un certain nombre d'années. C'est un point qui est très important parce que on peut parler aussi de pratiques eugénistes, ce qui est évidemment très grave. Est-ce que vous pouvez d'abord expliquer ce que sont ces pratiques et comment elles ont contribué à la mise à l'écart social de ces parents ?
Oui, alors je vais faire assez simple, mais c'est Florence Mégécas qui en avait parlé, donc je le rappelle, fondatrice de l'association Handiparentalité, qui en avait parlé lors de son intervention en plénière à Limoges, quand je l'avais rencontrée. Et elle évoquait donc brièvement ces pratiques eugénistes, en tout cas les traces qu'elles ont laissées sur la perception qu'on a du handicap aujourd'hui. Donc pour faire simple, l'eugénisme, dans le handicap en tout cas, enfin, c'est la théorie selon laquelle il faudrait améliorer la qualité génétique de la population en encourageant la reproduction des personnes perçues comme ayant des traits désirables, souhaitables, et à l'inverse en limitant la reproduction de celles qui ont des traits dit indésirable. Et c'est l'eugénisme qui a apporté en fait le concept d'individu jugé apte ou inapte, et c'est aussi l'héritage de l'eugénisme qui a ouvert la voie au fameux modèle médical du handicap dont je vous parle dans l'épisode 3. Donc le fait de définir le handicap comme une déficience corporelle, psychique ou mentale d'une personne, et donc de considérer le handicap comme un problème individuel. Et dans ce modèle médical, les politiques de santé sont donc tournées davantage vers le soin, vers la guérison de cette déficience, et non pas tourner vers l'amélioration de l'environnement de la personne dans un modèle plus social. Et donc, une des pratiques eugénistes les plus caractéristiques dans le handicap, c'est la stérilisation forcée des personnes en situation de handicap mental. Elle a beaucoup été pratiquée au XXe siècle. Donc, cette approche, même si heureusement, elle est plus autant d'actualité et que la stérilisation a été réglementée depuis, elle a quand même laissé des traces dans le discours public et dans les politiques. Et Florence soulignait un exemple dans son intervention. Elle a déjà entendu encore dans des institutions « Je te donne le médicament contre l'amour », sans donner d'explication à la personne à qui on prescrit en fait une pilule contraceptive. Donc il y a encore des restes aujourd'hui. Et il y a des débats évidents bioéthiques. On peut s'interroger sur le diagnostic prénatal du handicap, par exemple. Donc c'est le fait d'évaluer les risques qu'un fœtus soit porteur d'une anomalie grave. Est-ce que, par exemple, ce diagnostic a pu s'inscrire dans une logique eugéniste à un moment donné? Ça, c'est complètement des débats bioéthiques, mais ce que j'avais envie de souligner, c'est que ces progrès scientifiques-là ont permis à ses parents de se forger un choix éclairé, en toute conscience, un choix de faire un enfant ou non, de mettre au monde un enfant qui a le même handicap que soi ou non. Et cette notion de choix, elle est hyper importante, je l'ai ressentie dans les témoignages de tous mes interlocuteurs, peu importe la décision prise à la fin.
Alors Agathe, est-ce que vous pourriez nous raconter comment votre podcast a été accueilli par les personnes que vous avez interviewées, en amont d'abord, mais aussi après la diffusion ?
Alors de manière générale, tout le monde était très enthousiaste à l'idée de participer à ce podcast et m'ont même remercié de parler de ce sujet. C'était assez unanime, mais il y avait quand même certaines personnes qui déploraient, plutôt de manière générale, comme le dit de façon sous-jacente Florence Mégécas à la fin de l'épisode 4, qu'on parle plus du handicap aujourd'hui qu'avant, comme si c'était un peu devenu à la mode, et qu'au fond, ils se sentaient plus davantage comme faire valoir politique qu'autre chose. Et c'était pas le cas de ma démarche spécifiquement, mais vraiment une impression générale. Et d'autres ont pu montrer parfois une réticence au fait de ne parler d'eux qu'à travers les difficultés qu'ils rencontraient, sans montrer que derrière ces difficultés, il existe des parcours de parentalité heureux. J'ai essayé évidemment de maintenir un équilibre entre montrer ces difficultés qui existent, qui sont bel et bien là, et dont il faut parler évidemment, mais sans placer ses parents dans une vision à la fois misérabiliste du handicap et dans une situation qui serait un peu fatale, où il finirait forcément malheureux. C'est un raccourci qui ne représente pas du tout la réalité. Donc j'espère encore une fois avoir réussi à maintenir cet équilibre et à transmettre cette nuance.
Agathe, nous avons également demandé à nos auditrices et à nos auditeurs de nous poser des questions pour cet épisode bonus. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que vous pouvez rejoindre notre serveur Discord privé grâce à un simple don à partir de 3 euros sur notre cagnotte en ligne J'aime l'info. Cela vous permet d'écouter nos podcasts deux jours avant leur sortie officielle et d'échanger en direct avec toute notre équipe. Alors, une auditrice nous raconte avoir été émue en écoutant des parents qui ont été signalés par quelqu'un. Elle nous demande ce qu'on peut faire dans ce genre de situation, c'est-à-dire que lorsque l'on voit qu'un parent met malgré lui son enfant en danger, quand on s'inquiète donc pour la sécurité de l'enfant, mais qu'on n'a pas envie de faire un signalement, comment peut-on faire, comment peut-on intervenir d'après vous et d'après les spécialistes que vous avez interviewés ?
Alors ici non plus, la réponse n'est pas du tout évidente, parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi en fait pour agir parfaitement. Malheureusement, ça n'existe pas. C'est du bon sens souvent, et je pense que l'auditrice fait référence à la situation de Marion quand on a déposé une information préoccupante à son encontre. Donc Marion, elle, ce qu'elle disait, c'est qu'il aurait fallu en discuter avec elle avant, que la prévenir était la meilleure solution. Je pense évidemment que c'est la première chose à faire, mais il y a aussi le fait que nous ne sommes pas des professionnels de la petite enfance et que techniquement, ce n'est pas notre métier de juger du caractère dangereux d'une situation. Donc je dirais aussi qu'il faut s'en remettre aux professionnels quand c'est nécessaire. Et c'est là que c'est important que les professionnels, eux, soient familiers avec l'handiparentalité, parce qu'à partir du moment où les professionnels des services sociaux, notamment, savent, eux, faire la différence entre un parent en difficulté et un parent qui met en danger son enfant, quand bien même on dépose un signalement, eux sauront faire la différence et rediriger les parents vers un organisme qui peut les aider, ou en tout cas ne les mettra pas en porte-à-faux.
Oui, et derrière cette question, il y a aussi la question du regard que peuvent porter certains valides sur certaines personnes en situation de handicap. Vous parliez de misérabilisme, et puis il y a aussi cette manière de considérer qu'ils ne vont pas être capables, et les choses sont bien plus compliquées que cela, bien plus complexes, et souvent la réalité ne correspond pas forcément à celle que l'on voit lorsque l'on est valide. Alors, puisqu'on parle de parentalité dans le podcast, on pourrait s'attendre à entendre les témoignages des enfants également. Pourquoi avez-vous décidé de ne pas leur donner la parole ?
Je me suis demandé au départ quelle place j'allais leur accorder à ces enfants. J'étais pas sûre, mais je pensais que par-ci par-là, j'allais leur donner la parole, si j'avais de la matière, que j'avais l'occasion de les interviewer et que ça pouvait apporter un autre regard dans le podcast. J'en ai interrogé d'ailleurs quelques-uns sur le terrain. Ils étaient souvent très petits d'ailleurs encore. Mais je me suis rendu compte qu'ils avaient un discours en fait où ils allaient défendre leurs parents coûte que coûte, mais que ce soit par rapport au handicap ou non. Un enfant d'une personne valide aurait totalement pu me dire la même chose. Et c'est surtout que c'était un autre angle, en fait, qui méritait un tout autre podcast. J'ai d'ailleurs vu beaucoup de reportages, d'émissions sur le sujet, plus que sur l'handiparentalité en tant que telle. J'ai assez dû sélectionner déjà dans les témoignages des parents que je voulais vraiment rester à 100% sur ce sujet-là, sur vraiment ce que ressentent les parents au-delà du ressenti de leurs enfants.
Oui, un angle journalistique, c'est la manière dont on se saisit d'un sujet, dont on décide de le traiter. Avant de conclure, une dernière question. On suppose que vous n'avez pas pu mentionner toutes les associations, les ressources utiles à connaître. Est-ce que vous pourriez nous parler de quelques-unes de ces associations et ressources que nous n'avons pas encore abordées ?
Oui, il y a notamment une association en Dordogne, à Bergerac, qui s'appelle Lilibelle. C'est une association qui accompagne tout parent dans les différentes étapes de son projet de parentalité, qu'il soit en situation de handicap ou non. Donc Valérie Lachaud, sa présidente, a décidé de proposer un espace adapté aux enfants et aux parents, histoire de favoriser le bien-être de toute la famille à travers des activités comme des ateliers d'éveil de psychomotricité, de LSF, donc de langue des signes française, des cercles maman-bébé, de la socio-esthétique, plein de choses. Il y a aussi l'association Grandir Ensemble en région bordelaise. C'est le même type d'association qui accompagne les parents dans leurs besoins spécifiques. C'est avec elle que Handiparentalité a créé le centre Papillon, dont je parle dans l'épisode 4. J'ai pas l'impression qu'elle soit encore active, mais en tout cas, il existe toujours leur chaîne YouTube où il y a des vidéos explicatives comme des tutos pour donner le bain à son bébé, donner le biberon, etc. Et je peux aussi parler de l'application Be My Eyes. L'idée, c'est de prêter ses yeux à une personne aveugle ou malvoyante pour l'aider à surmonter une situation. Donc elle vous appelle et vous demande par exemple où est la télécommande sur la table, où est le biberon, est-ce que la robe est rouge ou que sais-je. Et donc c'est au-delà de la parentalité, mais ça reste très utile. Et pour finir, il y a aussi les ressources FALC, donc c'est le facile à lire et à comprendre. C'est une méthode qui a pour but de traduire un langage classique dans un langage compréhensible par tous, avec des images par exemple. Et il y en a certainement plein d'autres.
Agathe, une petite question bonus pour cet épisode bonus. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ? Qu'est-ce que vous avez appris en préparant ces épisodes ?
Alors, j'ai appris évidemment plein de choses, notamment tout ce qui est de l'ordre pratique, comment donner un biberon à bébé quand on est aveugle. Mais moi, ce qui m'a touchée particulièrement, déjà, je remercie Marion, donc la tante de mes cousines, grâce à qui je fais ce podcast, parce que c'est elle qui m'a fait découvrir ce pan d'une parentalité que je ne connaissais pas et qui, en fait, évoque, je trouve, plein de situations que peut connaître quelqu'un dans une famille monoparentale ou homoparentale. Donc j'ai trouvé que dans un sujet très spécifique, en fait, ça pouvait parler à tout le monde et ça a complètement, j'ai complètement repensé ma conception de faire famille et de parentalité dans ce podcast.
Merci beaucoup Agathe Hernier d'avoir répondu à nos questions. Tous les épisodes de Ses parents que l'on ne saurait voir sont à retrouver sur notre site et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous appréciez notre travail et souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser de bonnes notes sur votre plateforme préférée, à partager nos épisodes et à en parler autour de vous. Merci pour votre écoute et à bientôt sur Podcasting évidemment.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.